Jelena, yeah, Jelena. Get on me, yeah, get on me, yeah. Go Jelena, yeah, Jelena. Get on me, yeah, get on me, yeah.
Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que je suis un traître. Ils ont raison, je suis avec le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi.
Salut à toutes et à tous, je suis actuellement avec l'artiste Tikenja Fakoly. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien.
Donc, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, vous êtes l'un des plus grands représentants du reggae africain à l'international, ce qui vous a conduit à collaborer avec de grands noms du reggae jamaïcain, dont les célèbres Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Ken Booth, Max Romeo ou encore le toaster U-Roy. Multi-disque d'or, on se remémore bien volontiers certains de vos singles comme Plus rien ne m'étonne, Un Africain à Paris ou encore Le pays va mal, pour ne citer que. Votre discographie est très engagée et proche du peuple africain dans son ensemble, ce qui vous conduira à devoir vous exiler au Mali. Vous sortez donc le 17 mai votre 10e album Le Monde est chaud, enregistré à Abidjan. Donc le clip du titre Le Monde est chaud est déjà en ligne. Pourquoi avoir choisi d'avoir collaboré avec Soprano, avec lequel vous avez déjà fait un titre il y a 12 ans sur le titre Ouvrez les frontières, pour vous accompagner?
J'ai décidé de collaborer avec Soprano, comme vous venez de le dire. Nous avons fait une première collaboration il y a quelques années, et puis on a décidé de remettre ça, parce qu'à l'époque, quand on avait fait Ouvrez les frontières, on s'était promis qu'on allait se revoir, on allait faire notre titre à la. Quand vous regardez le clip Ouvrez les frontières, vous verrez que la fin a écrit à suivre. Et donc voilà, j'ai fait ce titre-là. J'ai voulu que ce prénom m'accompagne, qu'on puisse faire passer le message à un public qui ne l'écoute pas forcément. Vous savez, ce prénom est écouté par les jeunes. Hein. Je veux dire, donc c'était important pour moi dans l'objectif de sensibiliser. C'était important pour moi de faire passer le message à cette génération-là. Donc ce prénom m'a invité sur un titre de son nouvel album qui s'appelle Rampampam. Puis bon, voilà, on a décidé de collaborer aussi sur ce titre-là. Mais le but, c'est vraiment de sensibiliser, puisque c'est un titre qui parle d'écologie. Et je pense que si on commence à sensibiliser les gamins à partir de bas âge comme ça, ça peut donner de l'espoir. Hein. Et donc, c'est important que Soprano vienne renforcer ce message-là avec moi.
Et donc, d'ailleurs, c'est le seul featuring de votre album. Est-ce une volonté de faire un projet plus personnel?
C'est pas ça, c'est que bon, j'ai demandé d'autres featuring. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas tous les artistes qui viennent donner de la force sans demander un chèque. Donc, ce prénom fait partie de ceux-là.
D'accord.
Donc, pour moi, déjà, ça rentrait dans mon style. Et sinon, je voulais faire tout le featuring, évidemment. Mais bon, il y en a qui demandent qu'on leur donne des chèques. Et moi, je considère le featuring comme un échange.
D'accord, ok.
Par exemple, un artiste américain qui va faire un featuring avec moi, il va réussir à se faire entendre, par exemple, en Afrique, dans des pays où personne ne l'écoute. Et donc je considère la vitrine comme un échange. Mais Soprano a été l'un des seuls, enfin en tout cas les artistes que je voulais a été l'un des seuls qui n'a pas demandé de chèque. Et qui a répondu tout de suite, qui a vu plutôt le côté sensibilisation, qui a vu le côté message, et qui est venu tout de suite. Pour moi, je préfère des vibes comme ça, des vibes matérialistes.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est pourquoi j'ai gardé que Soprano.
Vous avez aussi collaboré avec des artistes comme Mo Calamity et Philantre, sur lesquels vous avez des featuring. Est-ce que c'est important pour vous de prendre du temps, d'aider les artistes émergents?
Ah oui, pour moi, c'est très important. C'est très important de prendre du temps, faire des choses avec des artistes émergents, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à maintenir la forme du reggae. Et nous, on est une génération, il y a une génération qui vient derrière, et si on veut que les gens continuent à écouter du reggae, il faut qu'on continue à arroser la graine qui est plantée. Et donc pour moi, c'est très important, c'est très important. Et donc voilà, vous l'avez dit, hein, je fais quand même au Calamity avec Philandre et plein d'autres aussi que peut-être vous connaissez pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je demande pas d'échec. Donc voilà, pour moi, c'est très très important de faire des choses avec les émergents pour qu'ils puissent nous aider à maintenir la flamme du reggae.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé ces collaborations avec Mo Calamity et Philandre, par exemple?
Bon, ce sont des artistes qui m'ont contacté. Donc Mo Calamity, elle m'a contacté, elle m'a parlé de son envie de faire un featuring avec moi. Et j'ai demandé le titre, elle m'a envoyé le titre et ça m'a plu. On est parti en studio, on a enregistré. Philandre, ça a été la même chose. Philandre est très habitué à l'Afrique.
Oui.
C'est quelqu'un qui va très souvent en Guinée ou au Mali. Donc, il a joué dans mon club plusieurs fois à Bamako. Il a organisé des concerts et donc, c'est là qu'on s'est connu. Et il a mis le souhait de faire un featuring avec moi. Et voilà, je connais l'esprit de Philandre. Je sais que c'est quelqu'un qui est engagé aussi pour l'Afrique, qui est aussi engagé. Donc, je ne pourrais pas dire non. ça a été vraiment des vibes positives, des choses qui se font avec des vibes positives.
En tout cas, c'est de très bons, je trouve que c'était de très bons featuring, des très belles chansons.
Merci.
Est-ce que vous avez envie de faire un album retour aux sources?
Je pense que l'album Le Monde est chaud est un album de retour aux sources, puisque c'est un album qui a été enregistré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un nouveau studio que je viens de monter, qui s'appelle Studio Radio Libre.
D'accord.
Et surtout, c'est un album qui a été enregistré avec des jeunes d'Ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, on a fait un casting, et on a pu retenir 5 titres, et les 5 titres ont fait le concours, et il y a un groupe qui a été choisi. Donc, on a fait jouer 11 titres par ce groupe, et puis on a donné la possibilité au deuxième groupe, le groupe qui avait en deuxième position, de faire 4 titres, puisqu'on a trouvé que le groupe qui avait en deuxième position avait une base assez spéciale. Donc on a choisi ce groupe-là pour jouer 4 titres. Pour moi, c'est vraiment un album de retour aux sources. Vous l'avez écouté, bien vous allez l'écouter. Et voilà, vous verrez qu'il y a beaucoup d'instruments traditionnels et que l'album a été quand même super bien produit. Nous avons choisi un jeune qui commence dans l'arrangement et donc qui a fait l'arrangement. Et donc c'est vraiment un album de retour aux sources.
Et donc le titre éponyme de l'album ainsi que le dernier morceau, Écologie, parle de l'état de la planète. Mm-hmm. Quelles seraient les pistes de solutions selon vous pour améliorer le sort de la planète et de l'être humain?
Ben, je pense que l'une des premières solutions, c'est la plus de conscience des décideurs de ce monde. Il faut les pousser à prendre conscience. Il faut continuer à organiser des manifestations comme à Londres aujourd'hui, comme à Paris. Voilà, il faut que l'Afrique s'y mette. Il faut que tout le monde saute dans la rue, bien sûr, sans casser, et qu'on arrive à les faire savoir que, voilà, qu'il faut qu'ils se décident. C'est l'une des solutions. La solution, c'est qu'il faut consacrer une heure dans les écoles primaires et même dans les lycées. Il faut consacrer une heure ou même 30 minutes au palais d'écologie, au palais des dangers que notre planète court aujourd'hui. On parlait de réchauffement climatique, etc. Je pense que, voilà, ce sont des solutions qui peuvent apporter des choses positives. Je pense que le plus important, c'est la sensibilisation des populations du monde. Si on aime nos enfants, qu'on a envie que nos petits-enfants vivent dans un monde moins pollué, alors c'est nous qui devons prendre des dispositions. Et donc, je pense que ce sont ces différentes solutions que je peux proposer aujourd'hui.
D'accord. Et donc, du coup, en Afrique, il y a peut-être, l'impact est peut-être plus visible. Qu'est-ce qui a changé avec le réchauffement climatique en Afrique?
Mais ce qui a changé, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Ce qui a changé, c'est que, voilà, nous, on est un peu victimes. On n'a pas d'usine, vraiment. On n'a pas les choses qui ont permis à l'Occident de se développer et qui ont pollué la planète. On ne les a pas. Mais par contre, comme nous sommes sur la même planète, nous recevons la fumée, nous recevons plein de choses là-bas qui nous font beaucoup de mal sur le plan santé, sur le plan climat, etc. Et donc, l'Afrique est beaucoup d'injustice par rapport au réchauffement climatique. Et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut aussi dénoncer, parce que l'Afrique se développe. Normalement, si on voulait être juste, les pays de l'Occident devaient fermer les entreprises qui polluent et puis laisser la chance à l'Afrique de se rattraper. C'est ça qui aurait été juste. Mais bon, je pense que on voulait trouver d'autres moyens pour que l'Afrique puisse se développer sans passer par des entreprises qui polluent. Donc voilà, nous sommes victimes, mais cela ne doit pas nous empêcher de contribuer au changement climatique.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je voulais savoir aussi de quoi parlaient les titres Kungo et Kujugu qui sont chantés en Dula, votre langue maternelle.
Au Kungo, on parle de... Moi, j'ai remarqué que chacun a ce problème dans ce monde, souvent, parce que, par exemple, vous perdez quelqu'un, vous venez du cimetière, vous êtes en deuil, je veux dire, mais de passage en voiture, vous voyez des gens qui sont en train de célébrer un mariage, par exemple. Vous voyez des jeunes en train de jouer au foot et qui, voilà, qui sont dans leur truc, hein, alors que vous êtes au fond du tout. Et donc, je dis simplement que, voilà, chacun a ses problèmes dans ce monde. Et c'est ça que je parle dans Congo. Dans Côte d'Ivoire, je dis que, quel que soit ce qu'on est dans ce monde-là, il y a souvent des gens qui sont jaloux. Il y a des jalousies. Quand vous, voilà, vous avez réussi dans la vie, quand vous réussissez dans la vie, il y a des gens qui sont jaloux. Mmh. Quand vous êtes au ghetto, il y a quand même, il y a toujours des gens qui trouvent des choses pour vous, pour être jaloux de vous, quoi. Et donc, c'est de ça que je parle. Je dis, finalement, le monde est un monde de l'hypocrisie. Donc, c'est de ça que je parle dans Côte d'Ivoire.
Il y a aussi la balade de Savol que je trouvais très intéressante. Il y a un contraste entre la douce mélodie et le texte qui est vraiment incisif. Comment vous est venue l'idée de ce titre?
Bon, ce titre est venu en fonction des inspirations. Vous savez, l'Afrique est l'un des continents les plus riches. Mmh. Mais l'Afrique est l'une des populations les plus pauvres. Je trouve que c'est un paradoxe assez choquant quand même. On ne peut pas être riche et pauvre. Mmh. Et l'Afrique est appauvrie par le pillage des richesses de l'Afrique par le système occidental. Mmh. Mais l'Afrique est appauvrie aussi par le pillage de ses richesses par ses politiciens véreux, hein, qui laissent les populations mourir alors qu'il y a la possibilité de construire des centres de santé et qui laissent les populations dans des situations difficiles alors que des milliards ou des millions sont volés, sont mis dans les comptes en Suisse ou en France. Mmh. Et le système occidental sait que ce pillage existe, mais comme il y a une complicité, donc il n'y a pas de dénonciation, et donc voilà, ça a prouvé l'Afrique. Donc je trouve que les richesses du continent africain sont volées, et les richesses du continent africain s'envolent aussi. Ça s'envole, ça va ailleurs, et il y en a que ça devait rentrer dans nos poches, mais ça rentre dans la poche de d'autres personnes. Et donc voilà, l'inspiration est venue, j'ai fait cette chanson, et vraiment ça a bien collé avec cette mélodie qui entraîne. Et donc voilà, un peu ce que je peux dire par rapport au titre s'envole.
D'accord. Et donc du coup, dans l'album, en général, vous parlez de sujets d'actualité, que ce soit l'écologie, la migration, dont la fuite des cerveaux qui est sous-entendue dans le titre « Pourquoi nous fuyons ?». Il y a aussi le retour de l'esclavage sur le titre « Libya ». Peut-on prendre votre dernier album comme un journal d'information, comme on disait, de la musique de Bob Marley à ses débuts dans les ghettos?
Ah oui, moi je suis en tout cas la trace de Bob Marley, hein, et je pense que le reggae a toujours été une musique de veille de conscience. Mmh. Le reggae a décidé depuis Bob Marley de prendre la parole pour le tiers-monde, donc pour les populations qui sont d'ailleurs majoritaires et qui ont envie de s'exprimer mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Moi c'est ça la mission du reggae. Bob Marley est mort très jeune, il avait 35 ans, et nous avons aujourd'hui le devoir de continuer sa mission. Et donc voilà, les messages, ce sont des messages de reggae, quoi. Le message de veille de conscience, le message qui prend une position pour ceux qui ont envie de s'exprimer et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Nous, c'est ça notre rôle. Dans tous les pays, aujourd'hui, quand les gens font du reggae, alors ils essaient de faire passer le message de la majorité qui a envie de s'exprimer, qui n'a pas la possibilité de le faire. Mmh. Vous savez, je suis allé en Jamaïque, j'ai vu des Japonais qui sont venus enregistrer. Quand on m'a expliqué le texte de leurs chansons, j'ai trouvé que ce sont des textes qui parlaient du ghetto, du Japon, les gens qui souffrent, les gens qui ont envie de s'exprimer. Et donc, partout où le reggae est, il doit avoir comme mission de faire passer le message de la majorité qui n'a pas la possibilité d'être invité sur les plateaux, qui n'a pas la possibilité d'être invité à la radio, qui n'a pas la possibilité de faire des interviews, etc. C'est ce rôle-là, en tout cas, que le reggae doit jouer, et c'est ce que je fais.
Ça vole la jambe de mon pays. Ça vole. Il s'envole l'argent de mon pays. Il
On sait que le reggae a conquis la planète entière, mais chaque continent a un reggae qui sonne particulier. Quelle est, selon vous, la spécificité du reggae africain?
Mais la spécificité du reggae africain sont les instruments traditionnels. Arriver à mettre la kora ou le balafon dans le reggae, une musique qui a été créée à des milliers de kilomètres de l'Afrique, et que ces instruments arrivent à bien sonner dans cette musique-là, je pense que c'est quelque chose de super. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains, parce que les Jamaïcains, ils ont créé cette musique-là, et on ne peut pas faire le reggae mieux qu'eux. Par contre, on peut prouver à travers notre reggae que la source du reggae, c'est l'Afrique, puisque les Jamaïcains eux-mêmes se réclament d'Afrique.
Oui.
Donc, voilà, le fait de mettre des instruments traditionnels dans le reggae, ça fait du reggae africain un reggae assez spécial.
Mmh.
Et puis, je pense que le rythme est souvent différent du rythme du reggae jamaïcain, même quand on n'y met pas d'instruments traditionnels. Très souvent, il y a des Africains qui décident de faire du reggae jamaïcain. Et moi, je leur ai toujours conseillé que ce n'est pas une bonne idée.
Mmh.
Ils sont libres de le faire, mais je sais qu'ils ne vont pas aller loin avec ça. Mais quand on fait du reggae africain et qu'on ajoute des instruments traditionnels, on peut même étonner, on peut épater les Jamaïcains avec ça. Voilà. Et nous, on le voit, hein, quand les Jamaïcains viennent, on voit mes combats. Mais balance, quand on fait des festivals avec eux, quand il y a la balance, ils sont épatés par ces instruments traditionnels parce qu'ils ne savent même pas comment ça se joue. Et ils se demandent comment on a ça, comment on fait sonner ça dans le reggae. Donc voilà, la particularité du reggae africain, c'est l'instrument traditionnel.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre projet Un Concert, Une École ?
Un Concert, Une École, c'est un projet qu'on a commencé il y a quelques années. On a créé l'association et donc nous sommes aujourd'hui à 6 écoles construites. Et on construit 2 écoles en Côte d'Ivoire, une école au Niger, une école au Burkina Faso, une école en Guinée-Conakry. Et nous allons construire et puis un collège au Mali, je veux dire. Donc ça fait 6 écoles et nous devons construire la prochaine école au Libéria. C'est le prochain pays où on va construire la prochaine école. Et après le Libéria, nous allons aller au Sierra Leone, en Sierra Leone. Moi, mon rêve à moi, c'est de construire une école dans chaque pays africain.
D'accord. Hein,
pour faire passer le message très très important de l'éducation.
Mmh.
Je vous parlais tout à l'heure de la manipulation des Africains par le système occidental et les politiciens vers eux. Et je pense que cette manipulation-là, elle est réussie parce que les gens qui nous manipulent savent que la majorité de nos populations ne savent ni lire ni écrire. Donc, il suffit de composer avec l'élite corrompue et que tout va se passer très bien. Et donc, voilà, c'est vraiment le but. Le but, c'est de contribuer au réveil de l'Afrique. Et je pense que l'éducation réveille. Et donc, c'est pourquoi j'ai créé cette association il y a quelques années et qu'on a décidé de faire ça. Et il y a 54 pays africains, nous avons construit 6 écoles, donc il nous reste encore beaucoup d'écoles à construire.
Mmh.
Donc c'est à chaque fin de tournée, nous organisons un concert dans une ville de France, ou en tout cas d'Europe, et toute la recette de ce concert est consacrée à la construction d'une école dans un pays africain. Voilà, c'est comme ça qu'on fait.
D'accord. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez proche du groupe Sinsimilia. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre lien avec eux?
Mais le groupe Sinsimilia, je suis proche d'eux parce que c'est le premier groupe qui m'a offert la possibilité de faire les premières parties quand je suis venu en France en 98. Donc de 98 à 2000, j'ai fait les premières parties de Sinsimilia.
Mm-hmm.
Et j'avais un de mes neveux qui jouait au clavier dans le groupe Sinsimilia, c'est lui qui a fait la connexion. Et puis tous les membres du groupe m'ont adopté. Et puis bon, voilà, ils m'ont donné la possibilité de faire les premières parties au Francophonie de La Rochelle. Et même, ils m'ont pris une tournée où j'ai fait la première partie. Et c'est un groupe qui a contribué un peu à me faire connaître ici en France.
D'accord.
Et donc voilà, je garde un bon lien avec eux. Et puis bon, je collabore aussi avec Mike de Sinsimilia sur l'écriture des textes, quelques textes de mes albums depuis quelques années. Donc j'ai un très très bon lien avec eux.
D'accord. Est-ce que vous auriez quelques artistes de reggae africain nous conseiller, mis à part peut-être Alpha Blondy et Saïm Japiteur qui sont un peu plus connus?
Oui, il y a beaucoup d'artistes africains qui font du reggae, je veux dire, beaucoup d'artistes de reggae africains. Là, je viens du Burkina Faso où j'étais invité à une cérémonie de remise de trophées.
D'accord.
Et je vous avoue que j'étais épaté de voir qu'il y avait une fraîche scène de reggae burkinabé. Hein. Et en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Il y a Kadim en Côte d'Ivoire. Je peux vous donner quelques noms. Il y a Kadim en Côte d'Ivoire. Ça s'écrit K-A-J-D-E-L.
Kadim. D'accord. Okay.
Et en Côte d'Ivoire, qui est très engagé, qui est un intellectuel parmi les régiments ivoiriens. Je vais vous donner quelques noms dans chaque pays. Il y a Takana Zaire au niveau de la Guinée.
Oui.
Il y a Tchaveriti au niveau du Burkina Faso. Il y a Dred Maxime au Sénégal. Voilà, il y a Ghana. Vous avez des artistes régiments, etc. Partout en Afrique, il y a du reggae. Il y a des régiments africains parce que le reggae est très, très écouté en Afrique parce que les gens ont pris conscience que le reggae les aide à se réveiller. Donc, partout, dans tous les pays africains, au Kenya, c'est allé, ils n'écoutent que du reggae. J'écoute beaucoup de reggae jamaïcain, mais il y a, j'écoute beaucoup de reggae et il y a des artistes de reggae. Partout en Afrique du Sud, vous aviez à l'époque Lucky Dube, mais vous avez aussi Ras Dumitsani qui vit en France, mais qui est sud-africain. Et il y a beaucoup d'artistes sud-africains qui font du reggae. Partout en Afrique, vous avez du reggae, parce que l'Afrique a besoin du reggae. Bob Marley a prophétisé ça il y a quelques années. Vous savez, dans une interview, il y a plusieurs années, Bob Marley a dit, un jour, le reggae va retourner à la source, le reggae va retourner en Afrique. Quand les Jamaïcains parlent de source, ils parlent de l'Afrique. Et il a dit que quand le reggae sera à la source, le reggae prendra sa vraie place. Et c'est cette prophétie qui se concrétise aujourd'hui à travers voilà, des artistes comme nous, comme Alpha Blondy, etc. D'ailleurs, Bob Marley est mort en 81. Alpha Blondy a explosé en 82. Donc on pourrait dire que la prophétie a commencé à se concrétiser dès la mort de Bob Marley. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques dates de concerts que vous avez en France ou en Europe?
Ce que je vous dis, c'est que la première date, c'est à Berlin, c'est le 17, donc le jour de la sortie de l'album.
Oui.
Maintenant, je n'ai pas mon calendrier devant moi, je ne précise pas trop le date.
D'accord. Donc j'invite les, voilà, les auditeurs à aller checker les réseaux sociaux de Tiken Jah Fakoly pour connaître les dates, les villes.
Voilà, il faut aller sur tikenjah.net et il y a toutes les dates qui vont s'afficher.
D'accord.
Tikenjah.net, il y a toutes les dates qui vont s'afficher. En tout cas, nous sommes en tournée là jusqu'à un bon moment quand même.
Ouais.
Jusqu'à mi-août, on sera sur la route. Donc on ira à Marie-Galante, on va aller en Espagne, on va aller en Belgique. Et voilà. Et donc je les invite à aller sur tikenjah.net, ils aimeront toutes les dates.
D'accord. Avec quel titre voulez-vous que l'on finisse l'interview et pourquoi ce choix?
Je pense qu'on peut finir l'interview par le titre écologie.
D'accord.
Écologie, voilà, parce que voilà, le monde est chaud et déjà sur le net. Et je pense que beaucoup de personnes ont vu ça. Et donc comme c'est un thème qui me tient à et je pense que ce titre-là, si on finit l'interview par ça, ça va être cool.
D'accord, pas de soucis. Merci beaucoup, Tiken Jah Fakoly, pour avoir accepté l'interview.
Merci, merci et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir. Bonne tournée.
Au revoir, au revoir.
Elle m'a dit, rien ne m'appartient, cela vient de chez vous. Je consulte les rivières, savoir pourquoi cette fat couleur. On dit pas responsable de leur triste malheur. Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas, sans savoir où l'on va. Namadunu nyabonya, amenande umakosa. Consulte le désert pour savoir ce qu'il en pensait. J'ai peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Je consulte les étoiles, savoir si on ne s'est pas trompé. On a peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas,